La vie, c'est comme ça tout le temps. Ou seulement quand on est petit.
Et pourquoi
où ça?
Comment qui êtes-vous?
Pourquoi me posez-vous toutes ces questions?
Ma parole, on vous avait dit que vous étiez jeune, mais je n'imaginais pas à ce point-là.
Un, deux...
Les petits yo-yo.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Petits Yo-Yo, une émission qui donne la parole aux enfants. Je suis Clara Grisot, nous sommes en direct et en public depuis le studio de la radio Ici Londres, installé au cœur du parc de la Baume, à Diolfi. Nous nous retrouvons à l'occasion de la 6e édition de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. Bienvenue, je rappelle que Radio Ici Londres est une initiative avec de nombreuses radios associatives amies. Je ne vais pas toutes les citer car évidemment je vais en oublier. Mais on nous retrouve également en direct sur Radio BLV, sur l'appli de Radiola, la web radio. Donc voilà, on peut nous écouter un peu partout. Cette année, nous sommes allés à la rencontre des enfants de deux classes de l'école de Bourdeaux. Ils ont entre 8 et 12 ans, ils se sont posé des questions sur la migration, sur l'exil. Ils en ont parlé avec leur maître et leur maîtresse, ils ont lu des livres sur le sujet. J'en profite d'ores et déjà pour remercier Julien et Isabelle pour leur accueil et les discussions riches que nous avons eues en classe. Alors, ces enfants se sont posés des questions et le but de l'émission est de trouver une personne pour y répondre. Voilà, alors c'est à vous que revient cette tâche extrêmement difficile, Alassane. J'ai le plaisir d'accueillir Alassane Dico. Bonjour.
Bonjour, Clara.
Alassane, Alassane Dico, votre mère est ivoirienne, votre père est malien. Vous êtes né et vous avez grandi au Mali, un pays à l'ouest de l'Afrique. Vous venez faire des études en Belgique. Vous arrivez en Belgique. 6 mois plus tard, la police vous contrôle. Elle vous demande vos papiers. Vous ne les avez pas. On vous dit qu'il faut partir et on vous renvoie au Mali. Là-bas, vous rencontrez d'autres personnes dans cette même situation. Et puis, c'est ainsi que vous dites que vous entrez finalement dans le thème de la migration par votre vécu, par votre parcours. Donc ça, c'était en 2005. Ça fait donc maintenant 20 ans que vous consacrez une partie de votre vie, que vous travaillez sur ces questions de migration, de visa, de papier. Et donc, vous allez pouvoir nous éclairer pendant la prochaine demi-heure. Merci à vous. Bienvenue.
Merci.
Alassane, en préparant cette émission, vous m'avez dit plusieurs choses. Vous m'avez dit que ce sera un exercice particulièrement difficile et que vous y alliez dans une sorte de dépouillement total. Et vous m'avez dit que répondre aux questions des enfants était peut-être l'exercice le plus difficile au monde. Vous le pensez toujours ?
Oui, je le pense toujours. Et du coup, je dis salut toutes les auditrices et les auditeurs avec un clin d'œil vraiment spécial au petit yo-yo et l'indulgence. On va y aller avec l'indulgence.
On va y aller à deux, ouais. À trois, avec l'indulgence.
C'est ça.
Vous, moi et l'indulgence. Ouais. Et puis, bien sûr, Quentin à la technique. Alors, on va voir comment on s'en sort ensemble. Vous êtes prêts?
Ouais, on se lance.
Allez, je vous propose une première séquence où on va écouter plusieurs questions d'affilée. J'en ai mis plusieurs à la suite. À vrai dire, quand je suis allée dans l'école, les enfants étaient un peu intimidés par le micro. Donc au début, ils étaient que deux à vouloir poser des questions. Et puis en fait, une fois que le premier était passé, ils voulaient tous venir. Et voilà, j'ai pas eu cœur d'en couper. Du coup, il y a pas mal de questions qui se ressemblent. Et on va voir. Mais en tout cas, cette première séquence, elle est plutôt autour de la question des frontières. On écoute.
Bonjour, je m'appelle Alaya et j'ai 9 ans. Je me demandais si pourquoi les frontières existent.
Bonjour, je m'appelle Romane et j'ai 9 ans.
Bonjour, je m'appelle Anna et j'ai 9 ans. Avec ma copine, on se demandait
à quoi ça sert les frontières.
Bonjour, je m'appelle Arfan, j'ai 10 ans.
Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 8 ans. On se demande depuis quand
les frontières existent.
Bonjour, je m'appelle Anton, j'ai 9 ans.
Bonjour, je m'appelle Isaac, j'ai 10 ans. Avec mon copain, on se pose une question.
Depuis quand l'exil existe.
Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai 9 ans et me demande si c'est difficile de passer les frontières.
Alassane, beaucoup de questions, mais peut-être on peut commencer par celle qui... Par une... Alors, pour ceux qui ne voient pas, mais là, il est en train de gratter une feuille devant lui. Les réponses doivent être données à l'oral, Alassane.
C'est tout comme si je passais le bac. Ouais, oui, on va répondre au petit yo-yo.
Ouais.
C'est des questions pointues.
Elles sont compliquées. Mais d'abord, peut-être si on part sur vous, peut-être votre situation, ou en tout cas les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Est-ce que c'est difficile de passer des frontières?
Oui. Oui, c'est, simplement oui, c'est difficile de passer les frontières. C'est déjà la frontière, c'est déjà blocage. C'est d'abord un lieu de blocage. Donc une ligne qui sépare un territoire d'un autre. Et je parle là de un peu dans le contexte africain. C'est difficile de traverser les frontières, de passer une frontière. On va dire de passer d'un pays à un autre. Et d'un pays à un autre, la ligne de démarcation, c'est la frontière, comme ça qu'on l'appelle. Donc, passer d'un pays A à un pays B, disons que c'est difficile parce que entre les deux côtés de la ligne, vous avez des gardes-frontières. Ils sont non seulement à des points de passage, c'est-à-dire que vous avez une frontière qui est une ligne, un espace quand même bien déterminé, et des deux côtés, vous avez des gardes-frontières, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour surveiller l'entrée et la sortie à ces points de passage. Mais au-delà de ces points de passage indiqués, connus, on va dire officiels, il y a de nombreux autres lieux, pas de points de passage, mais de lieux de circulation. Parce que le mal d'une frontière, c'est que la plupart du temps, ça divise des communautés, ça empêche une certaine diffusion d'une régularité socio-économique qui va être tantôt bloquée, tantôt filtrée.
Si on répond directement à Arfan ou à Alaya, qui était là, ça ressemble à quoi une frontière?
Une frontière, ça peut ressembler, on va dire, il y a différentes formes qui matérialisent la frontière. Sur une carte, ça va être une ligne tracée. Une ligne tracée d'un point à un autre qui détermine un pays A d'un pays B, comme je l'ai dit. Mais dans la réalité, il y a la carte où c'est des lignes, mais dans la réalité, ça va être soit un fleuve. Donc, ceux qui sont de l'autre côté en aval sont un pays, ceux qui sont en amont. Ça va être une mer, ça va être une chaîne de montagnes, ça va être aussi une forêt, mais partant duquel, voilà, vous retrouvez toutes ces configurations dans les différentes frontières, même européennes. Vous les retrouvez entre les différentes frontières européennes, telles qu'à la frontière Espagne-France, ou plus loin, entre la Pologne et les autres pays plus, où il y a aussi des barbelés. Donc voilà.
Également des murs. On peut aussi murs. Matérialiser ces lignes en construisant des murs. Par
Alors
exemple.
C'est la plus, c'est évidemment, c'est on va dire ces 20 dernières années, c'est la structure qui matérialise plus les frontières, parce que là, la frontière va devenir non seulement un lieu de filtrage, mais là, ça devient un lieu de blocage. C'est-à-dire une structure de blocage. Là, on ne parle plus de frontières avec des lieux de passage, mais de frontières mûres, de forteresses, comme on dit. Donc, c'est tout un allongement de murs. Vous allez les retrouver à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Vous les retrouvez en Europe même, à la frontière entre la Pologne et la Macédoine et d'autres pays. Vous les retrouvez entre la frontière entre la Grèce et la Turquie. Vous les retrouvez plus bas en Afrique, à une frontière délimitée qui sépare le Maroc des territoires espagnols en Afrique, c'est-à-dire Ceuta et Melilla. Il y a d'autres murs, mais vraiment, c'est pour dire que ces 20 dernières années, la frontière va être plus matérialisée.
La frontière également entre les États-Unis et le Mexique.
Et le Mexique, je l'ai dit en entrée.
Pardon, excusez-moi.
Voilà, donc c'est des frontières. On parle de murs. Restons-y un peu. On parle de murs, mais c'est pas un mur comme le mur clôture de mon habitat, par exemple. C'est déjà quelque chose de fortifié, de sécurisé avec des barbelés.
C'est très haut, c'est très épais.
C'est très haut. La moyenne de hauteur, c'est entre 7 et 8 mètres. Il y en a qui vont plus loin. Et c'est large en termes d'épaisseur pour pouvoir tenir des chocs ou des coups. Et il y a plus grave, c'est électrifié. Vous avez des barbelés qui les ceinturent plus haut, des barbelés avec des lames de fer.
Qui s'appelle, je le rappelle,
des concertina. Je viens de le savoir maintenant, parce que nous, on a toujours dit barbelé. Et là, maintenant, c'est...
C'est bien, c'est ceux qui sont avec les rasoirs et qui se déploient comme un accordéon.
Ouais.
C'est là d'où vient le nom de concertina. Alors, on va poursuivre ces questions-là. Il y avait une des questions qui était aussi de savoir à quoi ça sert les frontières. Mais en fait, c'est assez lié à ce qu'on va entendre désormais. Je vous propose une deuxième séquence qui est un peu qui part, pourquoi. Et on écoute les enfants.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 10 ans. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi choisir de s'exiler ?
Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 12 ans et j'ai une question à vous poser. Pourquoi on s'exile ?
Bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 9 ans.
Bonjour, je m'appelle Ava, j'ai 8 ans. Avec ma copine, on se posait une question.
Pourquoi les gens sont exilés ?
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 8 ans.
Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 9 ans.
Est-ce que ça fait de la peine d'être exilé ?
Bonjour, je m'appelle Ilaya, j'ai 9 ans.
Bonjour, je m'appelle Yana et j'ai 11 ans.
Comment fait-on
pour s'exiler ?
Bonjour, je m'appelle Joël et j'ai 10 ans et demi.
Bonjour, je m'appelle Amil et j'ai 10 ans et demi aussi.
Est-ce qu'on peut s'exiler définitivement ?
Bonjour, je m'appelle Shoaib, j'ai 10 ans et je me demandais bien pourquoi on est obligé de demander pour quitter un pays.
Alors, beaucoup de questions compliquées. Les trois premières, c'est la raison du départ. Pourquoi on choisit de s'exiler, Alassane ?
Pourquoi on s'exilait ? Bon, ça crochette un peu à l'envers, parce que l'exil en tant que tel, E-X-I-L en français, ce n'est pas comme ça que... Enfin, je fais partie des gens du Sud, voilà, on sait qu'on bouge, voilà, donc on est interpellé. Mais déjà, je suis malien et aussi de l'Afrique de l'Ouest, je commence par là. On dit chez nous, et c'est ce qui nous intégrons, le jour du départ est le jour où on prépare le retour. Ça, c'est lorsqu'on soulève le pas pour sortir de chez soi, pour aller à ce que vous appelez, qu'on appelle l'exil.
Mais pourquoi on décide de partir de son pays, Alassane ?
Voilà. Partir de son pays, donc on va dire en français simple, ce que nous comprenons, qu'on a appris à l'école, c'est l'émigration. L'exil, c'est lorsqu'on arrive quelque part et que pour des raisons, mais on va y revenir. Pourquoi on quitte son pays ? Il y a une multitude de raisons. Il y a une multitude de raisons, mais déjà, il faut avoir en esprit qu'il y a différentes formes d'émigration, de quitter son pays. Il y a différentes formes.
Par exemple ?
Voilà. Je ne vais pas m'attarder, mais vraiment donner une image concrète au petit yo-yo. C'est que moi, je suis malien. et en général. Nous avons une relation, un rapport de migration avec la France qui n'est pas particulière, mais elle est singulière. Je m'explique. Pour les Maliens, en majorité d'émigration des années 50, et aussi une petite partie du Sénégal à l'est, qui fait frontière avec le Mali, et une petite partie du nord-est de Guinée. Donc vous avez le bassin arachidier qu'on appelait anciennement, des années 30 jusqu'aux années 50. C'est là que produisait une grande quantité d'arachide, enfin, bien aménagé.
Qui peut servir à faire de l'huile
En Europe, ici, en France, qui produisait de l'huile.
D'accord.
Donc, ça marchait pendant plus d'une vingtaine d'années. C'est ce qu'on appelle le bassin arachidier. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, il s'agissait de la reconstruction. On sait que la Deuxième Guerre a détruit beaucoup de villes, des bombardements et autres, donc y compris la France. Beaucoup de villes étaient détruites qu'il fallait reconstruire. Alors, j'en viens à dire que pour quand même les Maliens, l'effet d'émigrer est venu de là. Entre 1952 et jusqu'en 1958, les personnes étaient incitées à venir.
Pour travailler.
Pour travailler à la reconstruction de la France.
Donc ça veut dire qu'il y a une des raisons pour lesquelles on peut décider de quitter son pays, qui est celle de trouver un travail.
Oui, je dis
Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme raison?
Oui, il y a diverses autres raisons.
Alassane.
Il y a diverses autres raisons. J'ai donné cette singularité quand même de l'immigration.
Oui, bien sûr.
C'est pourquoi vous retrouvez beaucoup de Maliens. Enfin, parce que c'est des générations successives. C'est la. Nous parlons de migration circulaire, mais on va y revenir. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait partir? Il y a plusieurs raisons. On englobe tout, finalement, de façon imaginaire, dans la pauvreté. Mais c'est aussi des déstabilisations de vie, des dérèglements d'existence. Ça peut être par l'environnement, le climat. Nous avons eu le changement climatique depuis le début des années 70. C'est passé par pure et perte. Je vais dire, mais c'est des conséquences que nous subissons depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui.
C'est-à-dire des sécheresses.
Des sécheresses étendues sur plus de 10 ans. On a fait souvent 2 années, 3 années au Mali sans une goutte de pluie.
Et donc,
que ce soit les agriculteurs, quand les paysans, comme on dit ici, c'est une grande majorité des peuples, des agriculteurs. Mais ce qui a forcé à partir, c'est d'abord cette période de sécheresse des années 70. Donc j'ai parlé de la première vague des années 50, voilà. Mais pour partir, on va dire, forcer de quitter chez soi, là, c'est des fonctions, on va dire, existentielles. Ça peut être dû par le changement climatique, les sécheresses qui sont beaucoup dans nos pays, la paupérisation des ressources de vie aussi. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fruits.
Des gens de plus en plus pauvres.
Voilà, oui,
mais,
effectivement.
Mais aussi des personnes qui peuvent être en danger dans leur pays et qui décident
et
de fuir.
Et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on ne parle pas trop de ça. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Parce que nos pays aussi suivent des cycles sociopolitiques, de lutte
attention,
démocratique.
Attention, ils ont entre 8 et 12 ans, Alassane.
Oui. Ah, oui.
Les cycles sociopolitiques, je pense
on
que ça commence
dire
à être...
il y a aussi des personnes qui sont engagées dans la politique de changement, dans la politique pour changer les choses sur la santé, sur l'école. Et sur... Alors, très souvent, le gouvernement, c'est mal vu chez nous que des personnes s'investissent. Et donc, du coup, ces personnes vont avoir des problèmes de sécurité et qui sont obligés de partir.
Et puis on parlait de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi des guerres, il y a aussi des bombardements. Je voudrais qu'on passe très vite parce qu'on n'est pas hyper en avance, mais c'est une question à laquelle je tiens beaucoup. C'était est-ce que ça fait de la peine d'être exilé,
oui.
Alassane?
Oui, carrément. C'est un déracinement déjà de quitter chez soi. En laissant, je veux dire, on quitte quelque part où on a un social à la base. Il y a des frères, des sœurs, la famille, des amis, des habitudes et tout ça. On avait, avant de quitter, il y avait une projection, des perspectives, mais qui vont se retrouver nulles à la fin. Et donc, on va quitter. Mais à ce niveau, je voudrais rappeler quand même au petit yo-yo qu'une grande majorité des personnes qui émigrent en Afrique, qui émigrent hors de leur pays, une grande majorité, ils se distribuent entre les autres pays africains.
C'est-à-dire, les personnes vont sur des pays à côté.
À côté. La plupart vont dans les pays à côté. Donc, c'est vraiment, on va dire, sur 10 personnes qui sortent de leur pays, il y a 7 ou 8 qui vont dans les pays à côté. Mmh. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire que ce n'est pas exactement tous ceux qui sortent de leur pays, qui viennent tous en Europe. C'est déjà difficile de sortir de son pays. Ça a besoin de ressources, ça a besoin aussi de la force, ça a besoin de courage. La plupart, il y a des problèmes pour obtenir de visa. Donc, ce qui fait que les gens vont prendre des chemins qu'on dit détournés, soit à travers le désert déjà, pour atteindre les bords de la mer Méditerranée, dans les pays du Maghreb, soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ou en Libye. Et de là, ils vont se débrouiller pour trouver des bateaux qui vont leur permettre de traverser. C'est assez dangereux, mais c'est par le manque aussi d'une liberté de circuler. C'est-à-dire la liberté de circuler va être obtenue par l'acquisition d'un visa.
Alors, c'est justement la suite. C'est les questions des enfants, c'est d'accord. On décide de partir, on arrive à partir et on arrive dans un pays. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On écoute.
Bonjour, je m'appelle Joseph, j'ai 9 ans et je me demandais comment fait-on quand on est exilé dans un autre pays et qu'on n'a pas d'argent.
Bonjour, je m'appelle Milo et j'ai 8 ans et sans papier. Comment on fait?
Bonjour, je m'appelle Alaska, j'ai 11 ans.
Bonjour, je m'appelle Jana et j'ai 11 ans.
On a une question à vous poser.
Comment voyage-t-on quand on est exilé?
Bonjour, je m'appelle Baptiste et j'ai 10 ans.
Bonjour, je m'appelle Walid et j'ai 10 ans.
Comment fait-on
des papiers quand on est exilé?
Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 11 ans. Comment on peut travailler quand on est exilé?
Bonjour, je m'appelle Sam et j'ai 10 ans.
Bonjour, je m'appelle Lali et j'ai 10 ans.
Comment s'amuser quand on est exilé?
Bonjour, je m'appelle Zachary, j'ai 11 ans. J'ai une question à vous dire. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à s'exiler?
Alors, encore beaucoup de questions. Mais quand on n'a pas de papier, pas d'argent, comment on vit, Alassane?
On vit difficilement. Déjà, comme toute personne qui n'a pas les moyens pour s'acheter un pain, ou s'acheter une bouteille d'eau, ou avoir un lieu pour dormir à minima. Ce sont des problèmes que nous rencontrons dès qu'on arrive dans un pays autre, que ce soit dans un pays même africain ou en Europe plus généralement. S'il n'y a pas de réseau de solidarité,
c'est-à-dire
que on a des émigrants qui passent de lieu en lieu.
Et qui arrivent quelque part et ils ne connaissent personne.
Oui, ils ne connaissent personne. Mais il y a d'autres aussi qui ont des points de chute. Parce qu'ils ont déjà un frère ou un ami ou des gens qui étaient déjà sur place et qui les permettent d'amortir l'arrivée, de souffler un peu quelques jours, de pouvoir s'habituer au quotidien. Mais voilà. Mais c'est difficile quand on n'a pas les moyens. Du coup, c'est ce qui aussi donne la nécessité, l'utilité et l'importance des associations de solidarité, des associations de soutien aux personnes immigrées. Il faut que ça existe parce que oui, effectivement, et c'est comme
on,
je dis.
On peut se retrouver très seul en fait dans le pays dans lequel on arrive.
Mais en général, on est la plupart du temps seul. On est la plupart du temps seul. On est déjà seul parce que difficilement qu'on comprend la langue parfaitement. Très souvent, les personnes qui arrivent, on va dire en France, ils n'ont pas trop, ils comprennent pas bien le français. La plupart, pas du tout. Donc, il y a l'adaptation qui est là, il y a le fait de pouvoir communiquer. Donc, ce sont des difficultés vraiment existentielles. Que,
Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour obtenir des papiers ?
Compliqué. C'est compliqué. C'est,
mais très, très concrètement.
Concrètement, vous avez deux ou trois manières. Et là, en fait, ça dépend de comment on arrive aussi. Ça dépend aussi de comment on arrive et dans quel contexte on arrive. Comme l'a dit la dernière la personne qui a pour la dernière question de l'autre session, et il peut arriver que des personnes arrivent, on va dire, hélas, ils viennent en exil. Là, c'est vraiment l'exil des personnes qui étaient engagées politiquement, qui faisaient des luttes politiques ou qui étaient faisaient de la politique ou autre, voilà, et ou qui faisaient de l'opposition au gouvernement en place. Eux, ils quittent le pays et ils arrivent vraiment dans l'idée d'exil
et de ne pas retourner
parce que ils ont, voilà, ils courent un danger d'emprisonnement ou même d'être de disparaître. Donc ces personnes là ça c'est différent de l'émigrant qui vient le plus souvent économique ou qui vient chercher
pour trouver un travail
et travailler, économiser un peu de sous. Et en général, ça appelle dans l'esprit même, dans la tête, c'est la migration circulaire. Il sort, il va dans un autre pays, peut-être un peu plus mieux que son pays, où il va faire différentes sortes de tâches, économiser de l'argent sur une certaine période et retourner chez lui. En général, c'est l'esprit qu'ils ont en tête. Mais le défaut même d'avoir le visa pour arriver dans un pays...
Et donc, par exemple, un visa, Alassane, comment est-ce qu'on obtient un visa ? On fait une demande auprès de qui ?
Dans les ambassades.
Dans les ambassades, d'accord.
Ou dans les consulats, ça dépend, mais généralement dans les ambassades des pays.
Et donc on fait une demande, on explique pourquoi on veut aller dans un autre pays.
C'est un peu plus compliqué que cela. Déjà, pour avoir la personne qui va prendre votre demande, c'est tout un parcours. Il y a plus d'une dizaine, il y a au moins, on va dire, une dizaine d'années qu'il y a ce dispositif d'abord d'appeler. Donc, il y a un numéro d'appel.
Pour prendre un rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous. Et le plus souvent, l'agenda, le calendrier ou des rendez-vous est toujours plein. Enfin, c'est toujours comme ça. On va voir. Et on vous donne, le plupart du temps, si votre demande de rendez-vous est acceptée, le rendez-vous va se situer au plus court, c'est 3 mois. C'est vraiment le plus court, 3 mois. Moyennement, c'est 6 mois. Alors que, généralement, on demande le visa lorsque on va bouger dans 2 semaines ou dans 1 mois ou peut-être, voilà. Mais très souvent, le moment du rendez-vous, ça, c'est pas le moment où on veut quitter. Et le plus souvent, on n'a pas, quand on a le rendez-vous, on n'a pas le visa parce que le nombre de documents
à demander est très important.
Il y a beaucoup de documents qui sont difficiles à trouver. Et en plus, il y a ce qu'on appelle les raisons du séjour.
Oui, c'est-à-dire si on y va pour du travail, pour du tourisme.
Exactement, pour ceci ou cela.
Alassane, on arrive déjà... Je vous avais prévenu que ça passerait à toute vitesse.
D'accord.
On arrive... quasiment à la fin de l'émission. Effectivement, vous parlez d'une situation qui est celle, en tout cas, que vous avez vécue, que vous avez connue. Probablement que si moi je demandais un visa avec un passeport européen, l'histoire serait certainement assez différente. Donc ce sont des réalités qui divergent beaucoup selon l'endroit où l'on est. J'aurais une dernière question. Qui est ma question cette fois-ci. On l'a entendu, la migration, ce sont des sujets difficiles. Les enfants se posent la question de savoir si on peut s'amuser quand on change de pays. Est-ce que ça fait de la peine ? Est-ce que c'est difficile de passer des frontières ? On peut y entendre des choses dures. Est-ce que vous pensez que c'est important de parler de ces questions à des enfants ?
Je pense que oui, mais avec les mots qu'il faut. Je m'excuserai de ne pas avoir eu tous les mots faciles pour les petits yoyos, mais je leur fais confiance pour essayer de comprendre. Mais effectivement, c'est pas facile. C'est quelque chose de compliqué. Mais on arrive à s'en sortir. Comme on le dit, il y a l'amusement qui est là. Il y a les camaraderies qu'on tisse. Il y a, à vrai dire, sans soutien, sans solidarité, c'est difficile. Je me perdrai un peu, mais vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez savoir réellement à la fin, vous-même. C'était quoi la question, parce que
savoir si vous pensez que c'est un sujet qu'il est important d'aborder, voilà, avec des enfants.
Justement, avec les mots qu'il faut, j'avais bien commencé, mais après, oui. Je pense que il faut. C'est déjà de l'éducation populaire. Les enfants, c'est des enfants. Mais comment j'ai ressenti ces questions, et je pense que les auditeurs et auditrices seront d'accord avec moi, que ce sont des questions qui viennent des enfants, mais ce n'est pas des petites questions.
C'est des très grandes questions.
C'est des questions. Moi, je transpire, quoi. Et je transpire parce que on ne m'a jamais posé des questions dans ce sens-là, comme ça. En vrai.
Juste avant de commencer, vous m'aviez dit, j'ai tellement chaud.
Ouais.
Si on cassait un œuf sur moi, ça ferait une omelette.
Une omelette à l'intérieur. Mais vraiment, je remercie parce que les enfants ont vraiment réfléchi. Ils ont travaillé. Ils et elles ont été vraiment attentifs.
C'est des questions très pertinentes, mais pour chaque question, il faudrait y passer quasiment une heure.
Exactement. Enfin,
je vous remercie, Alassane. Vous me disiez hors antenne qu'après cette émission, vous pensez que vous allez être une nouvelle personne.
Oui.
Est-ce que vous pensez que vous êtes une nouvelle personne?
Ah oui, parce que ce sont des questions-là, là, c'est comme un dictionnaire renouvelé pour moi. Je dois me remettre à la lecture. Je dois revoir mes copies. Vous trouvez vraiment toutes ces questions que j'ai notées doivent faire écho parce que je suis dans une organisation, j'anime un réseau sur différents pays. Je suis chargé de ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est-à-dire expliquer
et défendre des idées. Et habituellement, vous ne le faites pas avec des enfants.
Avec des enfants, et là, ça me ramène vraiment à des choses. Je remercie vraiment les petits yoyos.
Je vous remercie encore à nouveau. Merci au public. Mmh. Merci aussi à nouveau à Julien et Isabelle de l'école de Bordeaux. Mmh. Merci à Quentin, à la technique.
Ouais.
Merci à la radio d'ici Londres pour la confection de ce super générique. Je peux l'écouter qu'une seule fois par an, mais il est quand même vraiment super. On se retrouve à l'antenne à 15h30. Pour un super mix concocté par notre orfèvre sonore Bruno Seriba. Bon après-midi à l'écoute de la radio Ici l'Ombre et bonne rencontre.